chers auditeurs, bienvenue au libre journal de Lumière de l'Espérance sur Radio Courtoisie. En ce quatrième dimanche de l'Épiphanie, avec mon fidèle suppléant Christian de Malray, que je salue, j'ai la joie et l'honneur de recevoir aujourd'hui le père Louis-Marie de Blinières, fondateur de la fraternité Saint-Vincent Ferrier.
Bonjour.
Fondateur, ancien prieur et actuel régent des études, hein. Docteur en philosophie, notamment avec une thèse sur le mystère de l'être, l'approche thomiste de Gérard Deslauriers, qu'on trouve chez Éditeur Vrin en 2008, et puis auteur aussi de plusieurs livres de spiritualité, comme Les fins dernières, De Marie à la Trinité, méditation sur les mystères du rosaire, et plus récemment, en 2015, Le rosaire dans ma vie, qu'on trouve donc chez l'éditeur Dominique Martin Morin. En tant que fils de Saint Thomas, fils de Saint Dominique et frère prêcheur, je vous ai invité, mon père, pour parler d'un sujet, d'un thème général qui a fait couler beaucoup d'encre ces derniers temps, on peut dire même ces dernières années, avec l'année de la miséricorde notamment. Dans différents débats, je pense par exemple au thème de l'immigration, et ce thème évidemment c'est la miséricorde, et donc le thème de cette émission sera « Vraie et fausse miséricorde ». Mais auparavant, je dois vous faire part, hélas, du rappel à Dieu d'Arnaud de la Susse, qui était le fondateur de l'Action familiale et scolaire, Action familiale et scolaire dans le sillage de la cité catholique de Jean Housset, à qui nous devons beaucoup, à qui je dois beaucoup personnellement, comme collaborateur également de l'Action familiale et scolaire. Ces obsèques auront lieu demain, lundi, ce lundi à 10h30, en la cathédrale Saint-Louis de Versailles. Arnaud de la Susse était un homme d'une grande qualité morale, père notamment de Don Dismas de la Susse, qui est le prieur général des Chartreux aujourd'hui. Et c'était un homme d'une grande probité et qui agissait justement dans ce qu'on peut appeler les œuvres de miséricorde spirituelle. Donc Dieu est son âme, et je rappelle, son enterrement a lieu donc à la cathédrale de Versailles, demain lundi à 10h30. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais peut-être vous laisser, mon père, vous présenter davantage et dire pourquoi nous avons convenu ensemble de choisir ce thème « Vraie et fausse miséricorde ».
Voilà, merci Rémi de m'avoir invité dans cette émission qui m'est non pas familière, mais ce n'est pas la première fois que je viens. Donc je suis frère prêcheur, fils de Saint Dominique, et évidemment la clé de notre vocation c'est la miséricorde de la vérité. Et donc cette année de la miséricorde nous a beaucoup touchés, le choix du thème à notre avis est excellent, mais forcément comme disciples de Saint Thomas et du fait de notre trajectoire personnelle, nous sommes sensibles à mettre en place les choses de façon rigoureuse. Et c'est ce qu'on va essayer de faire un petit peu ce matin, en tâchant de revenir aux fondamentaux, d'abord en réfléchissant un petit peu sur ce qu'est vraiment la vertu de miséricorde, pas simplement le sentiment ou l'affect de miséricorde, et puis en soulignant combien la force est nécessaire pour exercer une véritable miséricorde dans une deuxième partie. Et enfin dans la troisième, on réfléchira sur les rapports un peu de l'identité et de l'universel dans l'exercice de cette miséricorde. Donc le premier point... Donc je pense que pour ma présentation personnelle, Rémi a dit ce qu'il fallait, ce n'est qu'il a évoqué la cité catholique dont moi-même j'ai beaucoup bénéficié et auquel je tiens à rendre hommage, et aussi à tous les hommes qui m'ont donné l'exemple dans différentes professions comme celle de Monsieur de la Susse au début de sa carrière. Et voilà, et j'ai eu un parcours un petit peu mouvementé puisque j'ai pendant 5 ans rejeté la foi et je l'ai retrouvée, ça je le citerai comme exemple en fin de discussion, je l'ai retrouvé en grande partie, bon, c'est forcément à cause de la Sainte Vierge de la rue du Bac à laquelle je viens de passer pour la prier, mais ça c'est la cause principale. Mais disons, les occasions, ça a été de voir des hommes qui étaient des catholiques, qui aimaient leur patrie, qui avaient du courage. Et voilà, donc c'était autour de mai 68 que j'ai pris contact avec eux. Et je me suis rendu compte qu'il fallait que je rentre au Bercail, parce qu'il n'y avait pas que des gens peace and love, disons, ou bien pro-gauchistes parmi les élites catholiques. Donc voilà un petit témoignage au passage.
D'ailleurs, c'est une période un peu analogique avec la nôtre, qui est une période de grande désorientation. Et en 68, heureusement qu'on a eu des repères, hein, soit des mouvements, soit des personnes, des religieux ou des laïcs, qui nous ont donné le bon cap à suivre.
J'étais à l'époque à Sainte-Geneviève, élève des jésuites, pour mon avancement intellectuel et l'expiation de mes péchés, bien sûr. Et donc, j'ai découvert un papier, enfin, un dépliant en 4 pages, A4, remarquable, qui était une application de la doctrine d'Augustin Cochin, le grand sociologue qui est malheureusement mort à la guerre de 14-18, à ce qui se passait au mois de mai 68 dans les assemblées générales. En fait, c'est Jean-Marie Schmitz, je salue s'il m'écoute, qui avait fait ce papier, et mes amis du comité étudiant pour les libertés universitaires et de la cité catholique. Et je me suis dit, ces gars-là, ces cathos ont raison. Enfin, ça, j'ai commencé à me poser la question, parce qu'en tout cas, ils affrontent le réel, quoi, de façon à la fois intellectuelle et courageuse.
On peut citer aussi votre frère Hugues Kerali, voilà, qui a...
Alors, Hugues a été un pilier pour la question, voilà, pour la question liturgique et culturelle, disons. C'est la nourriture, disons, mensuelle d'itinéraire qui a beaucoup joué dans ma vocation, et Madiran a donné un magnifique coup de pouce à un moment difficile de ma carrière ecclésiastique. Donc, j'exerce tout à fait la vertu de piété filiale. Et donc, ce qui peut, en particulier le contact avec Marcel Decorte par Jean Madiran, que je vais citer peut-être une ou deux fois. Donc, regardons ce que c'est que la miséricorde. Alors, la miséricorde, c'est un sentiment, hein. C'est le fait de, Aristote le dit dans deux de ses œuvres, hein, une douleur provoquée par la misère d'autrui. Mais c'est pas n'importe quelle douleur. C'est une douleur dont on sent qu'elle peut nous arriver. Voilà, c'est pourquoi Aristote dit, en fait, c'est les vieillards et les gens qui ont échappé à des dangers, voilà, qui sont miséricordieux. Mais c'est un mouvement de l'âme. Et saint Augustin et saint Thomas d'Aquin insistent pour dire ce mouvement de l'âme qui est une passion, hein, une passion qui peut être bonne, de soi c'est indifférent, une passion, eh bien, il faut le mettre sous la lumière de la raison. Et saint Augustin dit, la miséricorde obéit à la raison. Lorsqu'on fait miséricorde, la justice est en sauve. Soit qu'on secourt l'indigent, soit qu'on pardonne à celui qui se repent. Donc vous voyez tout de suite les penseurs chrétiens recevant cet héritage fabuleux de la pensée grecque. Hein, je ne dirais pas que les Grecs ont inventé l'intelligence, mais enfin, ils ont rendu un sacré service en la mettant en forme communicable. Ils ont tout de suite christianisé et, disons, même approfondi rationnellement cette méditation. C'est vrai qu'il y a un mouvement d'affection vis-à-vis de celui qui souffre. On souffre de la misère d'autrui dans la mesure où on la regarde comme sienne, hein, parce que c'est son ami qui souffre, ou bien c'est pas mon ami, mais c'est quelqu'un dans une situation où je pourrais me trouver. Donc on se dit, tiens, ça peut m'arriver, ce qui lui arrive, hein, quand, je sais pas, quand on voit un clodo dans la rue, on se dit, voilà, moi, on voit quelquefois des clodos qui étaient ingénieurs 3 mois avant, hein, donc ça peut nous arriver, voilà. Mais alors, maintenant, il faut bien réfléchir à ceci, que si on veut que la miséricorde soit une vertu, et c'est une vertu très importante, hein, c'est très beau dans la pensée de saint Thomas, la miséricorde avec la paix et la joie sont les 3 actes intérieurs de la charité. Donc c'est vraiment, je me souviens, Monseigneur Lefebvre, le jour de mon ordination, le 25 août 77, a prêché sur la miséricorde. Y a-t-il une vertu au-dessus de la charité ? Pour les hommes, hein, parce que Dieu, par rapport aux hommes. Oui, la miséricorde. Et j'ai, grâce à l'abbé Le Troadec, j'ai retrouvé 25 ans après le texte de ce sermon qu'il m'a proposé. C'était un beau sermon pour l'importance de cette vertu. Mais alors, précisément, pour que ce soit une vertu, il faut discerner la misère, hein, il faut avoir l'amour de celui qui est dans la misère, voilà. Et il faut penser que son malheur pourrait être le nôtre. Et en réfléchissant à ça, on a une application tout à fait directe pour la miséricorde, je dirais, spirituelle, puisque vous savez que on dit traditionnellement, il y a les œuvres de miséricorde spirituelle, hein, instruire, conseiller, conforter, pardonner, supporter les importuns, qui sont rappelés par le catéchisme de l'Église catholique, et les miséricordes corporelles, nourrir, loger, consoler, vêtir, visiter les malades, visiter les prisonniers, ensevelir les morts. Mais alors, il y a une hiérarchie. Si
il y a une hiérarchie.
Il y a une hiérarchie, voilà. Ouais. Mais souvent, la miséricorde corporelle prépare la miséricorde spirituelle, et on ne peut pas dire « je suis que dans le spi », quoi. Ça ne marche pas. Bon. Mais ceci dit, c'est très important pour nous de nous souvenir que
Et les saints de, qui ont beaucoup agi pour la, la miséricorde corporelle rappelaient la, la, la priorité.
Tout à fait.
Je pense à Mère Teresa, notamment.
Oui, tout à fait. Et l'important. Alors, le drame, à mon avis, je dirais, c'est la corruption de la miséricorde par le relativisme. C'est ce à quoi on assiste depuis un certain nombre de décennies dans l'Église, en parallèle d'un passage de la raison à l'affect ou de la raison à l'émotion dans la sphère culturelle et politique, et même, hélas, philosophique en partie. Voilà. Eh bien, et il semble quand même que les hommes d'Église se sont trop laissés gagner par une certaine hypertrophie de l'émotion, et surtout le relativisme dans sa forme absolue ou modérée a corrompu, à mon avis, de façon dramatique la miséricorde. Par exemple, l'idée qui est répandue, trop répandue et qui est radicalement fausse, que tous les hommes se sauvent ou que l'enfer est vide, enfin, c'est une idée qui a été diffusée sous forme d'hypothèse, mais qui tend à devenir une certitude pour beaucoup de gens par un théologien jésuite allemand, et qui est fausse, hein, il suffit de lire l'Évangile ou d'écouter ce que dit la Sainte Vierge de Fatima. Cette idée corrompt à la racine la miséricorde spirituelle. Si tout le monde se sauve, bah, c'est pas la peine de se fatiguer pour le salut éternel des gens. Ça, c'est un premier point. Donc, et il faut donc discerner, nous, dans la vraie miséricorde, que le malheur suprême pour l'homme, c'est la damnation dans l'éternité, et l'erreur et le péché dans le temps. C'est exactement ce que dit saint Thomas. Dans la Somme contre les gentils, la plus grande misère de l'homme, c'est l'erreur. Pas seulement l'ignorance, mais l'erreur donc, qui est plus forte. Hein. Et donc, si nous sommes pénétrés de cette réalité, enfin, voilà, c'est une réalité vraie, enfin, et pieuse en plus, eh bien, nous allons essayer de communiquer le Christ qui est la plus grande richesse.
Et Mère Teresa disait, la plus grande pauvreté de l'homme, la grande misère de l'homme, c'est de ne pas connaître Dieu.
Voilà, ouais, exactement.
Donc ça se rejoint.
Et quand on voit les grands spirituels du XVIIe siècle, qui étaient, je lisais récemment la vie de celui qui a fondé Montréal, un laïc, un homme assez extraordinaire, et justement, c'est un homme extrêmement profond. Et dans ses confréries qui ont servi à fonder Montréal, il était extrêmement soucieux. Le but même de Montréal était l'évangélisation et le salut des Indiens. Mmh. Bon, mais c'était quand même une œuvre à la fois politique, extraordinaire. D'ailleurs, c'est une des plus grandes villes du monde qui a été fondée par un homme pieux qui habitait à côté de chez nous, à La Flèche. Enfin, c'est tout à fait délicieux de la lire. Il y a le père Pérouse, un historien, je crois qu'il s'appelle Pérouse, qui a écrit sa vie récemment, et ça vaut la peine de le lire. Donc, premièrement, quel est le discerner la vraie misère? Donc, d'abord, la misère éternelle ou temporelle vraie, à savoir la damnation, le péché, l'erreur. Et puis, aimer vraiment ceux à qui nous voulons porter secours. Et donc, parfois, exercer la miséricorde de la correction fraternelle ou l'avertissement, ou voilà, enfin, quelque chose qui va être un peu désagréable pour nous, mais voilà. Ça, c'est, je crois, des deux éléments très importants, parce que le relativisme a vraiment cassé. J'y réfléchissais en pensant aux œuvres missionnaires. Hein. On est parfois au Moyen-Orient dans notre fraternité et on voit. Et puis j'étais récemment au Québec, comment ces pays-là ont été ensemencés par des vocations missionnaires, religieuses, masculines, féminines, qui maintenant sont largement taries. Parce que si tout le monde se sauve, bon, on n'a pas besoin de trop de missionnaires, etc. Alors ça, c'est le côté de la doctrine, mais il y a également un côté de l'attitude qui consiste à dire toutes les religions sont des moyens de salut. Discours qu'on entend, discours affligeant, enfin, qui est très contre une vérité élémentaire du, je dirais même de la saine raison. Si Dieu se révèle, moi quand j'étais agnostique, hein, je vais vous faire une confidence, chers auditeurs, je me suis dit, j'étais comme beaucoup d'agnostiques, j'aimais l'Église catholique. Je me disais, si on prouve l'existence de Dieu, il n'y a pas photo, comme disent les jeunes. Je suis catho. Je retrouve la foi de mon pays et de mes pères. Et puis des gens, voilà, des gens que j'admire, la culture occidentale. Voilà. Donc c'est très faux de mettre tout le monde sur le même plan. Je me disais, si Dieu a révélé une religion, il n'en a révélé qu'une. C'est logique. Hein. Et il y a beaucoup une tendance générale dans l'apostolat ou l'absence d'apostolat, c'est que vu que toutes les voies sont bonnes, eh ben, on ne se fatigue pas pour accueillir les gens, je pense, pour les musulmans.
Est-ce qu'il n'y a pas des fois la démarche de dire on a un moyen de salut peut-être supérieur, mais on ne veut pas s'ingérer dans les autres moyens par une espèce de faiblesse, d'indolence Est-ce qu'il n'y a pas aussi cette
Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a une petite faute contre la force, on va y revenir, parce que c'est quelquefois un petit peu gênant. Il y a du respect humain, je suis frappé quand même de... Par rapport même aux musulmans, ils vous parlent de Dieu très rapidement. D'ailleurs, ils me félicitent d'être en habit quand je les croise dans le métro. Hein. Mais il y a, en effet, il y a cette espèce de pudeur excessive Il faut respecter la liberté, donc il ne faut pas... Aujourd'hui, malheureusement, le mot prosélytisme, qui était un mot très honorable dans l'Ancien Testament, est devenu péjoratif. Bon, d'accord, pas de pression indue, ne pas attirer les gens au christianisme pour des raisons sociales ou financières, ce qui peut être le cas en Asie, en Afrique, en France, moins.
Prosélytisme, c'est le zèle de la foi. Hein, donc,
à l'origine, ce serait ça. Mais aujourd'hui, c'est employer des moyens douteux pour amener à la vérité.
C'est devenu péjoratif.
Voilà. Mais je suis frappé de cette grande erreur. C'est vrai que certains se sauvent en dehors des limites visibles de l'Église, mais même s'ils sont membres par un vœu implicite de l'Église, Pie XII a rappelé dans un très beau texte, hein, Mystici Corporis, il leur manque beaucoup de grâce. Vous voyez, et de fait, le Christ nous a dit « allez enseigner ». Après, Dieu a des moyens à lui. Mais je pense qu'il y a une sorte d'ingérence cléricale et progressiste dans la pensée de Dieu, en disant « puisqu'ils ont des moyens, laissons-les ». C'est complètement faux. Le Christ nous a dit « allez enseigner ». Et face à ça, nous rencontrons dans nos œuvres qui se développent, grâce à Dieu, nos œuvres Notre-Dame de Kabylie, Notre-Dame de l'Accueil, Eleutheros, Angélus, Forum de Jésus le Messie, toutes nos œuvres d'accueil des musulmans convertis. Nous commençons à rencontrer un peu de soutien, mais il faudrait que ce soit beaucoup plus fort. Parce que parfois, il faudrait que, je ne sais pas, sur tous les sites de diocèse, il y ait une partie, parce qu'il y a un grand mouvement de nombreux musulmans qui veulent aller vers le Christ et qu'on peut atteindre individuellement par l'Internet ou par des contacts personnels. Mais si on est dans l'indifférence, je crois, pour les moyens de salut, on n'exerce pas la vraie miséricorde. Si je suis riche du Christ, je cherche à le donner comme je peux, et avec finesse, avec tact, avec... Mais je crois qu'il y a beaucoup, enfin, ça c'est les dons du Saint-Esprit nous aident à cela. Mais il faut réagir, si vous voulez, contre, comme disait Rémi, l'indolence. Il y a un archevêque, je ne dirais pas de quelle ville, qui a répondu à un de mes amis, qui lui disait, mais il faut annoncer le Christ aussi aux musulmans, parce que le Christ a dit, allez enseigner. Oui, lui répond l'archevêque, mais il n'a pas dit quand. Donc c'est toujours plus tard. Donc c'est à mon avis très très nocif. Et je pense que moi personnellement, je l'apprends comme un grand manque de charité, parce que nos convertis, alors on en a aussi qui viennent de l'hindouisme ou du judaïsme, sont dans une joie. Si vous leur voyez leur tête, vous avez envie d'évangéliser, quoi.
Alors ça me fait penser un peu aussi à la restriction mentale qu'a beaucoup dénoncé Pascal dans les provinciales. Mais ce qui voilà. C'est pas le moment, donc on fait une restriction mentale dans le temps. Oui, c'est pas le moment, c'est pas opportun, sous couvert de peut-être de pédagogie, mais il y a quand même une déficience quelque part.
Il y a un discernement. Ouais. On abuse aussi de l'attitude de Charles de Foucault, qui était vraiment pas relativiste. Mais on dit sais-tu, donc taisons-nous. Mais justement, il dit je prépare, donc il faut quand même. Et puis c'est une vocation singulière. Il n'a pas fondé un ordre. Et je suis d'accord avec vous, il faut user de beaucoup de doigté. Il faut, de toute façon, le Saint-Esprit nous inspire. Hein, ça, il faut vraiment croire à ça. Si un témoin de Jéhovah vient pour vous convertir, le Saint-Esprit ne travaille pas pour lui, mais il travaille pour vous.
Ouais.
Donc, allons-y. Mais je crois qu'il y a eu des ailes intempestives. Je vois nos amis évangélistes, on en a dans les œuvres de conversion. Alors eux, ils y vont à fond, complètement déboutonnés, si j'ose dire. C'est à la fois admirable et échevelé de un certain nombre viennent après au catholicisme. Bon. Mais nous, arrêtons d'être inhibés. Parce que franchement, le catholicisme, c'est magnifique. Enfin, quand on compare aux différentes formes de christianisme. Et donc, je suis d'accord sur la question aussi de la restriction. Il y a des cas où il faut se taire. Il y a des cas où on répond de façon minimale. Mais pas toujours. Oui, je pense que Pascal doit se retourner dans sa tombe. Il était quand même un très saint homme, hein, même s'il a eu quelques erreurs proches du jansénisme. Il faut quand même, c'est notre grande richesse, et il y a un moment donné où la restriction mentale est quand même au-delà des limites de l'acceptable. Quoi.
Donc, Et alors, je reviens au fameux sermon de Mgr Lefebvre sur la supériorité de la miséricorde par rapport à la lâcheté, ça m'intrigue un peu.
Par rapport à la vertu. Par rapport à la charité.
Oui, par rapport à la charité, oui.
Voilà, mais c'est relatif.
Oui, c'est relatif, parce que voilà.
La charité est la plus grande de toutes les vertus, mais par rapport aux autres, en fait, elle se monnaie en miséricorde.
Miséricorde, donc ça implique misère et voilà. Cœur, justement.
Voilà.
Et est-ce qu'en Dieu, justement, donc c'est une question un peu théologique, est-ce qu'en Dieu, il y a de la misère, donc,
Alors, c'est ça, c'est pour ça que c'est qu'une supériorité relative pour les hommes. Pour un homme, en exerçant la miséricorde, on est sûr d'exercer la vraie miséricorde qui découle de la charité. on est sûr de bien de faire ce qu'il faut pour vivre la charité.
D'accord.
Et c'est notre Seigneur nous dit dans le jugement dernier, il énonce un certain nombre d'œuvres de miséricorde.
Donc, vous êtes sur Radio Courtoisie. Dans le libre journal de l'Espérance, aujourd'hui, Rémy Fontaine reçoit le père Louis-Marie de Blinière pour parler de la miséricorde. Mon père, une question d'auditeur, une femme demande quel est le nom de celui qui a fondé Montréal dans le but d'évangéliser les Indiens.
Le Royer. Mais il a un nom composé. Il a fondé avec l'aide de la Compagnie du Saint-Sacrement. Et avec lui, il n'a jamais été au Québec, mais il a été aidé par tout un réseau, Saint-Vincent-de-Paul, etc. Son nom, c'est Le Royer. Mais alors, c'est un nom à rallonge et la dernière partie m'échappe.
Oui. Alors, j'ai oublié de dire aussi que vous développez tous ces thèmes et d'autres, du reste, dans votre revue Céleste Sapientiae. Vous pouvez peut-être nous en dire un mot de cette revue qui développe d'un point de vue théologique beaucoup de sujets, et notamment il y en a les deux derniers, et notamment la revue 137 a tout un dossier sur la miséricorde tout à fait intéressant, mais également pour un renouveau de l'apologétique. Un petit mot sur votre revue, mon père.
Voilà. Donc la revue est presque aussi ancienne que notre fraternité. Céleste Sapientiae, c'est parce qu'on l'a dédiée à la Sainte Vierge, le trône de la sagesse. Notre but est d'aider chacun à acquérir une culture religieuse proportionnée à sa culture profane. Donc ça demande beaucoup de travail, parce que c'est trimestriel, c'est pas très long. Alors on dit qu'elle est un peu difficile, je pense pas. Sur cet article, vous en avez au moins 3 ou 4 que vous comprendrez très bien.
Oui, oui. Alors on n'est pas obligé de lire tous les articles, mais il y en a toujours des articles passionnants. Moi, je reçois la revue et je la lis avec beaucoup d'intérêt.
Voilà.
Et je veux dire, les dossiers sont très fouillés et c'est passionnant. Quand on s'intéresse à un
sujet. Le challenge, c'est comme disent nos amis d'outre-Atlantique, c'est qu'en fait, chez nous, un article qui est relu par 3 ou 4 personnes, il est parlu, quoi. Parce qu'on est au moins 5 dessus, on relit tout. Et moi, comme régent des études, bien sûr, et d'autres, on est implacable au point de vue de l'orthodoxie. On vérifie toutes les références, ce qui fait qu'au total, en quelques années, c'est devenu, c'est vrai, une revue, un peu de référence. Une amie me présentait au patriarche Grégoire Lacham, le patriarche Melkite, qui était venu à Paris pour une réunion de l'œuvre d'Orient. Et il me disait, voilà, père de Blinière, qui a fondé cette revue, la revue de référence du traditionalisme. Ça a amusé sa béatitude. Mais je me rends compte, en allant à Rome ou auprès des évêques, que c'est vrai qu'on est lu. Voilà, c'est vraiment l'esprit dominicain. On cherche à faire passer la vérité avant tout, et puis surtout à la faire passer de façon accessible, comme on le fait dans le Café Cathé, par exemple, par rapport à l'islam. Le père Favelin m'a succédé au Café Cathé au Sorbonne, sur le centre rue des écoles. Et cette année, le thème, c'est vraiment l'islam. Par exemple, mardi prochain, à 20h30, au Sorbonne, 60 rue des écoles, il va parler de la question de la femme dans l'islam. Et je vous assure que c'est passionnant, il connaît très bien le sujet, il a fait de l'apostolat de rue avec les musulmans. Donc si vous vous posez des questions, allez au Café.
Parce que la miséricorde existe aussi dans l'islam, justement. Dieu miséricordieux.
Voilà, alors on a fait un article, c'est Guy Pagès. J'ai un peu retravaillé son article, parce que c'est l'abbé Pagès, notre cher ami. Donc j'ai un peu...
Qui est venu également dans
cette émission. Voilà, qui est un grand ami, qui a un cœur apostolique fantastique. Un article miséricorde dans l'islam, miséricorde dans le bouddhisme par un de nos frères qui était moine bouddhiste et qui est converti. Converti, on va dire comment, peut-être dans la troisième partie. Et il y a une miséricorde dans l'islam, mais le mot est équivoque. Hein, parce que c'est vraiment miséricorde uniquement par rapport aux gens de l'Oumma. C'est-à-dire il faut vraiment d'abord être musulman, soumis. Et si on est soumis, même si on pêche mortellement, enfin l'équivalent du péché mortel, on peut rentrer en grâce, si j'ose dire, mais c'est des mots équivoques pour l'islam. Mais c'est très équivoque. Il n'y a pas de miséricorde directe pour ceux qui ne sont pas soumis à la soi-disant vraie révélation.
Alors, en lisant votre dossier sur la miséricorde, j'ai vu justement, vous êtes peut-être nous expliquer cela, que la miséricorde était un effet de la charité avec la joie et la paix.
Voilà. Hein?
Donc c'est pour ça ma question sur la supériorité.
Voilà, mes chers amis auditeurs, si vous avez l'occasion de vous procurer la Somme de théologie, c'est vraiment un des passages qu'il faut lire, hein, c'est dans les effets de la charité. Saint Thomas dit, la charité est une amitié. C'est une grande nouveauté, enfin, grande hardiesse, disons, philosophico-théologique, Saint Thomas. Une amitié entre nous et Dieu, et une amitié est toujours fondée sur la communication d'un bien. Et ce bien, c'est la béatitude. Dieu a la béatitude, il nous la donne, parfaitement au ciel, mais déjà ici avec la foi et les vertus théologales. Et donc, si je suis dans l'amitié avec Dieu, Automatiquement, alors il consacre des très très belles questions à la paix, qui est d'actualité, parce que dans notre société dépressive, comme Diana Trella, on a besoin de la paix. Mais la vraie paix, hein, la paix, la tranquillité de l'ordre, la charité nous mettant dans l'amitié avec notre Créateur, notre Sauveur, et le rendant présent en nous, parce que Dieu est, j'allais dire, presque, enfin, métaphysiquement présent en nous, et par la grâce, il est même présent en nous, comme dans un temple, on peut le connaître et l'aimer. Donc tout de suite, on est heureux, quoi. Comme si vous êtes avec votre meilleur ami et qu'il est encore que le début de la soirée, vous avez toute la soirée pour écouter de la flûte indienne et puis boire des fumées des mecarios et puis manger, je sais pas ce qui vous plaît, et en même temps, vous parlez de quelque chose qui vous passionne, quoi. Et donc, il y a vraiment cet effet de joie dans la charité. Et c'est vrai qu'on est, Sainte Dominique est un exemple fabuleux de ça, quoi. Et on sait aussi qu'on peut la donner, on peut préparer le fait que les autres la reçoivent. Et puis la paix, parce que on est dans l'ordre, même si on souffre, hein, on est comme Socrate qui dit qu'il est mieux de souffrir l'injustice que de la commettre.
Voilà donc, qu'est-ce qu'on peut encore dire sur cette première partie, vraie et fausse miséricorde, sur les dérives pastorales peut-être qu'on connaît.
Je pense qu'il y a une dérive pastorale qui est une couverture de la lâcheté, enfin, et de l'attentisme. Hein. On est passé, si on voit par exemple l'évolution de ce qui fut l'action catholique, hein, rendons aux chrétiens nos frères, etc., évangélisation active, après on passe au simple témoignage, ensuite c'est simplement la présence. Et maintenant, c'est l'enfouissement, enfin maintenant, ouais. Dans ce qui reste de, malheureusement, trop de zones marquées par le progressisme des années 45-50, l'enfouissement. Et donc là, je pense qu'il y a quelque chose de très dommageable, parce que je lisais récemment un livre qui s'appelle « De la contemplation à la contestation », qui raconte la politisation de la province des Dominicains de France. Mais c'est hallucinant, j'avais déjà beaucoup de renseignements, mais il a pu avoir tous les dossiers. C'est vraiment la marxisation. Ça s'est accéléré en 68, mais c'était en germe avant, dans les années 60. Et donc là, il y a vraiment un enfouissement total. Ils ont dit supprimons la vie régulière qui nous empêche d'être des témoins du Christ. Alors que dans l'idée de Saint-Dominique, la vie régulière est une condition, justement, pour devenir contemplatif, pour étudier, pour apporter le Christ aux gens. Et donc, je crois que là, il y a... Parce que leur témoignage, c'était de devenir prêtre-ouvrier, d'aller vivre dans les HLM, etc. Donc là, il y a vraiment, je crois, une corruption de la miséricorde.
Il y a le fameux principe thomiste ou scolastique, l'agir suit l'être. Voilà. Et à partir du moment où on inverse le principe, il y a une révolution copernicienne, en quelque sorte.
Voilà, ouais. Voilà. Je pense que ouais. Ça tient aussi au fait que la contemplation a été sous-estimée et heureusement, aujourd'hui, on peut dire, avec les livres du père Marie-Eugène, un peu un regain du père Garrigou Lagrange, tous les groupes de prière, les écoles d'oraison, l'adoration, on parle de Mère Teresa, l'adoration. On retrouve beaucoup plus cette dimension de la contemplation et c'est très heureux.
Alors, dans votre revue aussi, donc, je lis une autre forme de la de fausse miséricorde, et on va y venir en seconde partie, donc l'exaltation indiscrète d'une non-résistance systématique au mal, avec l'oubli de l'importance de l'ordre de la charité, du droit du prochain et du bien commun. Mais auparavant, nous allons faire une pause musicale.
Exalted.
Vous êtes sur Radio Courtoisie, le libre journal de l'espérance. Aujourd'hui, Rémy Fontaine reçoit le père Louis-Marie de Blinière de Saint-Vincent-Ferrier. Une question d'auditrice. Père, pourriez-vous dire quelques mots des doubias, qu'est-ce qui se passe au Vatican? Donc, étant donné que nous ne sommes pas dans le plan de l'émission, vous avez dit que vous répondriez brièvement à cette question en fin d'émission.
Tout à fait.
Alors, nous venons d'écouter, nous sommes tout à fait dans le sujet, Ubi Caritas, chanté par la Scola Regina, qui, sauf erreur, n'est pas très loin, à Saint-Jean-de-Chantal, donc dirigé par Philippe Nikoloff. Hein, donc, ce CD Credo est produit par Max Gazzini. Donc, Scola Regina, CD Credo, Ubi Caritas, nous sommes dans le sujet et nous abordons maintenant, mais on est toujours dans le thème vrai et fausse miséricorde, la place de la force dans la pensée chrétienne. Et je rappelle également que ce sujet a été abordé par la revue Sedes Sapientiae. On donnera tout à l'heure l'adresse où se la procurer. Il y a eu un très beau dossier, très fourni, Force et violence.
Et on peut aller sur le site.
Oui, alors donnons-le maintenant.
Chemereux, hein, le site de la fraternité, c'est chemereux sans accent, chemereux.org. Oui. Et donc là, dans la partie formation, il y aura cet article.
D'accord. Et donc l'adresse de la fraternité Saint-Vincent-Ferrier, c'est Société Saint-Thomas-d'Aquin, 53 340 à Chemereux-le-Roi. Je répète. Société Saint-Thomas-d'Aquin, 53 340, Chemereux-le-Roi. Chemereux-le-Roi. Voilà donc, actuellement, depuis je dirais même peut-être quelques pontificats, on a tendance à édulcorer la doctrine de la légitime défense qu'avait très bien développée Saint-Thomas-d'Aquin. Et on entend beaucoup de réflexions, plus jamais ça, plus jamais de guerre, etc. Les prédicateurs ont tendance à dire que l'attitude proprement catholique, c'est la non-violence. Donc, je vous laisse un peu développer ce débat, car si effectivement il y a un aspect très pacifique dans l'évangile, tendre la joue gauche, etc., il y a aussi au niveau temporel une certaine légitime défense. Et il y a aussi dans l'évangile des passages où le Christ sait employer une certaine violence, quand il chasse les marchands du temple.
Alors, on va, comme pour la miséricorde, on va prendre un peu de recul. Et aussi, on va partir aussi des anciens qui nous ont beaucoup préparé le travail. La force, il faut se souvenir que la force est une vertu, et même une des vertus clés, hein, autour desquelles tournent les autres, on appelle les cardinales, comme des gonds. Et c'est ce qui maintient les facultés inférieures, hein, le désir de jouissance qu'on appelle le concupiscible ou l'énergie sensible qui peut plus ou moins s'exciter et qu'on appelle l'irascible, elle les maintient sous la lumière de la raison. Et alors, je remarque tout de suite, dans le contexte de la modernité, la raison, au fond, n'a pas tellement bonne presse. Hein. Quand Jean-Paul II a publié « Foi et raison », il y a un des nouveaux philosophes qui a dit « Merci au pape, il y a au moins lui qui croit à la raison ». Et de fait, ça n'a pas trop bonne presse à cause de ça. Et en même temps, on est dans un siècle, dans une période culturelle que Solzhenitsyn a très bien caractérisé dans le discours d'Harvard, hein, qui lui a voulu beaucoup d'antinomie, mais à mon avis, c'est vraiment un très très beau discours qu'on trouve très facilement sur Internet, caractérisant l'Occident moderne comme marqué par le déclin du courage. Et un autre texte qu'on trouve aussi très facilement, qu'il faut donner à vos adolescents, c'est la lettre de Denois de Samar. Que dire à un jeune de 20 ans? Et alors, il lui demande, l'encourage à justement, la plus nécessaire des vertus me paraît être le courage, les courages, et surtout celui dont on ne parle pas et qui consiste à être fidèle à ses rêves de jeunesse. Alors je trouve que c'est magnifique parce que c'est vrai que, comme beaucoup, j'espère être fidèle à mes rêves de jeunesse, d'être philosophe, scientifique et savant. Bon, je le réalise dans la vie dominicaine.
Ouais, il y a une parole analogue d'André Charlier, je crois, à ses capitaines, en disant voilà. Il faut être fidèle à ce qu'on croyait dans sa jeunesse.
Voilà, et quand c'est un Denois de Saint-Marc qui dit ça, il a un titre à parler. Alors donc, cette vertu là-dessus, donc bien développée par chez Platon, chez Aristote, et saint Thomas la reprend, hein, en disant, bon, de même que physiquement on a besoin d'une force physique pour soulever des poids, on a besoin de la force morale pour écarter les obstacles. Mais les obstacles à quoi ? À l'action prudente et juste. Ça, c'est une clé. Oui, la force, c'est vraiment voilà, quelque chose qui nous aide à ne pas céder, à écarter les obstacles qui gêneraient l'exercice de la justice ou qui nous empêcheraient de faire une œuvre bonne. Alors maintenant, il y a un autre point qu'on appelle la violence. Alors la violence, c'est quelque chose de différent, c'est pas une vertu, c'est un fait, un peu physique, si vous voulez. Chaque être a une nature, donc il tend à réaliser ce qui est inscrit dans sa nature. La pierre tend à tomber, c'est l'exemple qu'on prend toujours. Si je prends la pierre et que la jette vers le haut, c'est ce qu'on appelle une violence par rapport à sa nature, c'est l'exemple d'Aristote. Bon. Et violence, vous voyez, ce qui est contre la tendance naturelle d'un être concerné. Alors pour un homme, est violent, ce qui est contre sa raison et sa liberté surtout. Et donc, est-ce que la violence est toujours mauvaise ? Bon, ben justement, la réponse, c'est non. J'espère que ça vous surprend un peu, ceux qui sont un peu mous là, les cathos mous. Non, c'est pas toujours mauvais.
La nature de l'homme, c'est d'agir selon la raison et tout voilà. Ce qui est contrainte, effectivement, on peut penser
voilà,
que...
Voilà, alors c'est vrai que c'est toujours un mal physique de subir une violence, hein, mais c'est pas toujours un mal moral de l'exercer. Et c'est ça qu'on va essayer de développer, parce que la coercition est légitime dans certains cas. Et ce que j'ai remarqué depuis, disons, 50 ans à peu près, ou un peu plus, que je réfléchis, c'est qu'il y a vraiment une évacuation de la légitime coercition. Il y a sans doute eu des abus. Moi, je suis assez vieux pour en avoir vu quelques-uns de près. Bon, mais c'est pas parce qu'il y a des abus que la coercition exercée par la force publique ou par les parents ou par, que sais-je, les États entre eux est toujours négative. Et je pense que ça explique la crise du droit pénal, aussi bien canonique que civil, la crise de l'éducation, en partie, c'est pas la seule cause. Hein. Et puis même la juste interprétation de certains textes difficiles comme celui sur la liberté religieuse.
Bah, à ce sujet, le Conseil constitutionnel vient de retoquer le décret interdisant les fessées. C'est quand même assez surprenant que de temps en temps, il y ait des retours voilà. En arrière comme ça.
Un retour au bon sens, on peut dire.
Voilà. Mais justement, c'est une chose qu'on dira peut-être dans la troisième partie. On a un grand allié, c'est ce que j'ai dit un peu à la journée parlementaire il y a quelques jours, de Jacques Bompard. Un grand allié, c'est la conscience et le bon sens. Parce qu'on peut pas... Je me souviens, j'ai été formé par quelqu'un que la Suisse a dû connaître, Michel Flichy, de l'Ordre français, et il nous disait, on peut pas perpétuellement, pendant des années, faire aller tout le monde contre le droit naturel. Il y a quelque chose qui se révolte, une partie des gens qui se révoltent, et quand c'est le Conseil constitutionnel, on en est heureux. Donc il y a des cas de légitime violence, non pas que là, la violence soit bonne en tant que telle, mais dans certains cas, il est légitime d'exercer une certaine violence soumise à la prudence et soumise à la justice. Et ça, je crois qu'il est capital de le rappeler, parce que sinon, on m'empêche contre la charité, contre la justice et contre la prudence. Et on rentre dans un univers surréaliste où c'est le gardien de l'ordre, le militaire, le professeur, l'évêque, qui est coupable a priori, et c'est les droits infinis du criminel et du délinquant qui sont devant les yeux de tous. Quoi.
Oui, je me rappelle également d'une conférence de Gustave Thibon qui disait la non-violence, à titre personnel, pourquoi pas, c'est héroïque, mais quand on a charge d'âme, quand on a la charge d'un bien commun, effectivement, c'est tout à fait différent.
Tout à fait.
Parce que la charité s'exerce aussi pour ceux dont on a la responsabilité.
Tout à fait. Alors donc, il y a trois cas qui sont absolument classiques. La légitime défense, la juste peine et la guerre juste. Hein. Donc, légitime défense, bon, elle est explicitement mentionnée par le catéchisme de l'Église catholique et elle est reconnue quand même encore dans les droits européens. Mais le drame un peu, c'est que les conditions qu'on met autour pour qu'il y ait la clause de réponse proportionnée sont tellement vexatoires par rapport à celui qui pourrait exercer la violence que souvent on paralyse cette légitime défense. Parce que c'est moi, je me souviens, c'est un temps ancien déjà pour moi, mais dans mon adolescence, quelqu'un qui avait eu l'occasion de fréquenter les droits communs, les prisonniers de droits communs, me disait, tu sais, il y a une chose pour eux qui est sacrée, c'est le flic. Parce que s'il tape ou s'il tire sur un flic, c'est la peine de mort. Et c'était comme ça.
Alors tout est retourné, puisque j'ai eu un témoignage justement de policiers au sujet des policiers qui ont été incendiés dans leur voiture et qui me disaient, mais enfin, c'était un policier qui parlait, il me disait, mais on a un pistolet au côté, il aurait pu tirer À travers la porte pour ressortir, puisque vous savez ce qui s'est passé, ils ont mis le feu à la voiture, et ensuite ils tenaient les portières pour que les policiers ne puissent pas sortir. Et les policiers qui étaient à l'intérieur étaient armés, ils auraient pu faire usage de leurs armes, et alors ils me disaient, on est dans une telle dans un tel endoctrinement où on ne doit pas toucher à nos armes, quoi qu'il arrive, que on en a perdu le réflexe et que même là ils ont failli perdre la vie ces policiers, parce que tirer à travers une portière pour dégager un type qui est en train de le faire mourir vif, carbonisé, eh bien il n'en a pas eu le réflexe.
Donc là il y aurait une, je sais pas, je veux pas prôner tout de suite une légitime insurrection, mais là il se fait d'un TDK de vie ou de mort, donc j'espère qu'on va se réveiller. Donc légitime défense, juste peine. Alors ça, les textes sont explicites dans Saint-Paul et dans Saint-Pierre. Je m'étonne de la timidité de magistrats qui sont encore de culture catholique ou de prélats, qui sont d'une très grande... On peut dire qu'il y a une crise du droit pénal canonique depuis 50 ans qui a amené des conséquences graves, on l'a vu dans certains scandales. Ce n'est pas la seule cause, mais le fait qu'on... Je prends un exemple, il y a des prêtres qui quittent le sacerdoce. Bon, gardons la charité vis-à-vis d'eux, mais n'organisons pas une journée spéciale le jeudi saint en faveur de ces prêtres. Enfin, comment on le fait? Vous voyez, il y a un grand désordre. Je crois qu'il faut rappeler l'importance de la juste peine et comme charité vis-à-vis du délinquant. Parce que je crois que c'est le père Petitclerc, hein, donc un ancien polytechnicien qui est apôtre dans les banlieues, oui, qui dit la première charité vis-à-vis du délinquant, c'est la sanction, la juste sanction. Parce que c'est aussi pédagogique. Ça permet de...
Bien, je dis bien.
Oui, tout à fait. Et puis surtout, c'est que comme dit saint Thomas, la loi, l'homme vertueux, pour lui, la loi, il n'est pas soumis à la loi. Il l'a fait à partir de la raison, il n'a pas besoin. Mais justement, celui qui n'est pas encore assez vertueux, il a besoin d'une force qui le ramène à réfléchir. Moi, j'ai eu une chose assez extraordinaire. J'ai prêché la retraite du Rosaire, une excellente retraite que je prêche depuis 30 ans, à un truand qui avait fait 13 ans de prison droit commun dans les années 70. Donc, je suis à peu près sûr qu'il avait tué quelqu'un. Eh bien, ce gars-là, c'est parce qu'il a été mis au mitard, donc cachot disciplinaire de la santé. À l'époque, c'est pas vraiment drôle, peut-être ça l'est toujours pas aujourd'hui, avec rien, sauf l'aumônier qui était un dominicain, des voyonnes, qui lui file un bouquin, ça ils peuvent pas te l'enlever, c'était l'évangile. Donc sur l'évangile, il finit par lire, parce qu'il est avec ça, mon père, Luc 19:10, le fils de l'homme est venu pour sauver ce qui était perdu. J'ai compris, c'est moi. Et c'est le mitard, de même que la fameuse phrase de Solignitine, hein, béni sois-tu prison, car sur la paille de la prison, pour la première fois, j'ai senti remuer en moi le bien. Ça ne veut pas dire que le régime pénitentiaire n'est pas humanisé. Enfin, à l'époque, il l'était. Maintenant, je ne sais pas trop comment il est. Il y avait des besoins de plus d'humanité, sans doute. Mais n'oublions pas cette dimension de charité vis-à-vis même du délinquant, mais également des personnes qu'il faut protéger. Protéger la communauté, ramener le coupable à l'observation du droit, expier le délit commis. C'est une dimension qui n'est plus du tout présente dans la pensée juridique, malheureusement. Et pourtant, c'est une réalité. Les officiers de Légion disaient que quelquefois les types venaient les voir en disant « Mon capitaine, j'ai fait une connerie, punis-moi !» Et après, ça allait mieux, quoi. J'étais puni. Bon, peut-être pas tous, mais en tout cas, voilà. Et nous avons, nous, chez les religieux, des petites pénitences très symboliques. Mais c'est vrai que quand on voit notre voisin qui fait une pénitence parce qu'il a fait une fausse note, ou... vous voyez, ça a l'air de rien, mais vraiment, c'est un équilibre profond qui relève de la nature corporelle de l'homme.
Et l'enfant à qui on passe tout le sent très bien. Hein.
Voilà, il sent qu'il n'y a pas de limite. Donc ça, donc la juste peine. Et puis la guerre juste. Alors ça, je crois que c'est important parce que c'est une doctrine qui est explicitement fondée sur... la raison et l'évangile. Et contrairement à ce que croient beaucoup, ou feignent de croire beaucoup, l'Église n'est jamais tombée dans un pacifisme doctrinal. Puisque dans certains cas, l'Église dit non, attendez, ça c'est légitime. Dans d'autres cas, elle dit c'est légitime. Parfois, elle ne dit rien. Mais le principe est parfaitement maintenu par la doctrine, avec évidemment la complication. Alors là, c'est un terrain passionnant, mais qui nous sortirait, c'est que la guerre révolutionnaire et la guerre nucléaire, en général la guerre moderne, posent des problèmes insoupçonnés autrefois. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des problèmes qu'il n'y a plus de principe, si vous voulez, qu'on va se laisser...
Alors, il y a une controverse, et l'amiral Berger de l'Action féminine scolaire aussi avait abordé cette controverse. Mais je sais qu'il y a deux positions.
Il y a deux positions sur la dissuasion, Berger et puis un autre général gaulliste. Et puis, enfin, mon père, lui, était officier, mais était un peu d'une position contraire par rapport à la dissuasion. Mais il y a ça, mais il y a également la guerre subversive qui pose des problèmes considérables pour la recherche du renseignement, pour le... bon, etc. Mais c'est des vrais problèmes, et il ne fait pas en se fermant les yeux... Il faut les aborder. Donc voilà trois cas où il y a une violence légitime à exercer, mais évidemment, les officiers qui ont été dans les, vraiment dans les combats le savent, c'est quelquefois plus difficile d'arrêter les hommes une fois que l'objectif est atteint, pour qu'il n'y ait pas de représailles, qu'on ne brûle pas le village, qu'on n'exécute pas les types, que de les lancer à l'assaut. Mais il faut les lancer, et après, il faut arrêter la passion. Quoi. Donc, mais c'est deux fois un exercice de force. Quoi. Mais il ne faut pas non plus dire on ne les lance pas, parce que s'il y a un objectif, il faut essayer de l'atteindre. Donc il y a des problèmes très intéressants. Moi, personnellement, j'ai eu l'occasion de fréquenter de près des officiers qui avaient fait 25 ans de campagne, quoi, qui ont vu toutes les situations humaines possibles. Et contrairement à ce que pensent beaucoup de caricatureurs, je ne sais pas comment dire, j'étais frappé de la finesse. Enfin, ce que j'ai vu était peut-être une élite, j'en sais rien, mais enfin, de la réflexion, des soucis de conscience qu'ils avaient et de la qualité humaine de ces gens-là. Donc, je le dis pour les gens, pour un petit coup de chapeau à la fonction militaire, qui est, quand elle est bien exercée, une grande fonction. Et je remarque que dans l'Évangile, il y a plein de centurions et qui ne sont pas blâmés. Ni Saint Jean-Baptiste, ni Jésus, ni Saint Paul ne blâment les centurions. Je crois que ce n'est pas tout à fait un hasard. Ouais, enfin voilà. Donc voilà, ça c'est pour le plan naturel. C'est presque tellement évident qu'on a honte de le rappeler. De toute façon, si l'Occident ne veut pas s'en souvenir, il disparaît. C'est pas compliqué. Et donc c'est pas vraiment une charité, parce que quand on se balade au Moyen-Orient ou ailleurs, on est presque encouragé quand on vient en France, parce qu'on se dit tiens, les gens nous aiment encore, on se demande pourquoi. Ils ont besoin de nous. Ils ont besoin qu'on ne disparaisse pas, quoi. Parce que quand même, l'équilibre européen, je dirais, culturel, est quand même une belle réussite, quoi, malgré des tas de défauts, d'accord. Et donc, par charité pour les autres, ne disparaissons pas, quoi. Alors maintenant, appliquons ça un peu à l'ordre surnaturel, Ancien et Nouveau Testament. Je vais être obligé de passer assez vite pour l'Ancien Testament, parce que c'est une question un peu délicate qu'on a traitée dans des articles très remarquables du père Crignon dans notre revue. Mais on peut faire rapidement le parallèle entre la violence de l'Ancien Testament et le djihad, parce que quand on lit, c'est vrai que moi je suis actuellement en train de faire ma lecture spirituelle dans l'Ancien Testament, alors c'est parfois des chroniques guerrières.
Mais oui, j'ai rencontré un prêtre une fois qui m'avait dit que dans l'ancien temps, enfin avant les années 50 peut-être, il était formellement déconseillé de lire l'Ancien Testament à cause justement de cette violence et du besoin d'une exégèse.
Voilà. Il faut vraiment, je crois, commencer, je vois, pour nous convertir, c'est souvent Saint Jean, Saint Matthieu, et voilà, c'est qui sont le déclic. Et c'est vrai que l'Ancien Testament, moi-même, j'ai mis longtemps à m'apprivoiser, mais par les pères de l'Église et par l'interprétation typologique.
Parce qu'enfin, quand Dieu donne au peuple élu la terre promise, il lui donne bien l'ordre d'exterminer les gens qu'ils ont, de ne pas pactiser.
Voilà, il ne faut pas le nier, parce que je me souviens qu'au moment des différentes assises, les Juifs disaient, bon, le Dieu de paix, ce n'est pas vraiment ce qu'on a dans notre Ancien Testament. Et donc là, il faut regarder les choses en face.
Hein. Certains auraient tendance à dire, oui, ben, l'Ancien Testament, c'est comparable au Coran, par exemple. Le père Crignon, justement.
Voilà, c'est ce qu'on essaye de
dans
montrer.
Dans votre vue, voilà.
D'une part, souvent, l'auteur décrit sans forcément approuver, hein, alors que dans le Coran et dans les hadiths, vous avez des préceptes formels, allez-y, vous voyez. D'autres fois, c'est vraiment des ordres qui sont donnés, mais c'est une violence qui est circonscrite, et circonscrite à la conquête de la Terre Sainte, donc on en reviendra en troisième partie, donc elle est vraiment circonscrite dans les objectifs. Et on peut plus, et pour amener la chair du Christ, pour amener le Christ comme fils de cette nation, préservée, monothéiste, préservée d'un univers entièrement païen autour d'elle. Et puis troisièmement, c'est caduque. Et d'une caducité irréversible.
Le Nouveau Testament l'a rendu caduque,
pas seulement parce qu'elle a atteint son but, qui était d'établir un peuple déjà ouvert à la révélation, très cultivé, parce qu'au moment de notre Seigneur, la catéchèse était très bonne, enfin la scolarité aussi. Un peu comme avant 68 en France, quoi, ou au Liban encore actuellement. Et donc les gens savaient lire et écrire, même comprenaient l'hébreu. Donc quand ça a été préparé, après, il fallait supprimer ça. Et donc cette caducité est absolument irrévertible. Et en fait, cette violence était permise, si vous voulez, pour amener ce qui allait la dépasser. Donc ça, c'est... Mais il faut quand même reconnaître qu'elle a eu lieu. Ouais. Et je pense qu'un des fondements, c'est que Dieu est le maître de la vie et de la mort. On ne peut pas lire l'épisode du sacrifice d'Isaac sans se rappeler ça, si vous voulez. Et que si on a l'horizon que la mort est le mal absolu... C'est incompréhensible. Mais ces gens-là pouvaient, ils pouvaient aussi être achetés par la grâce de Dieu. Donc, je pense qu'il faut, faire très attention que quand vous regardez de près non seulement le Coran, mais les autres textes canoniques, à savoir la Sira, la vie de Mahomet, et puis les hadiths, ceux au moins supposés authentiques, hein, Al-Bukhari par exemple. Moi, j'ai fait un peu la collection dans une CDS. C'est vraiment quelque chose qui fait partie, d'ailleurs c'est rappelé par certains groupes musulmans, mais voilà, c'est une lecture tout à fait normale des sources canoniques, alors qu'il n'y a pas actuellement de chrétien qui dit « je vais vous tuer parce que vous... vous ne partagez pas ma foi ou parce que sais-je. » Donc ça, je crois qu'il faut être très clair là-dessus.
C'est pour ça qu'il faut lire l'Ancien Testament dans sa globalité et pas retirer ce qui nous plaît. C'est valable aussi pour l'étranger, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais l'Ancien Testament dit sur l'étranger des paroles et d'autres paroles qui ne sont pas du tout équivalentes.
Oui, d'autant plus que dans l'Ancien Testament, vous avez aussi la tolérance qui est par Moïse du libelle de répudiation. Alors, il ne faudrait pas arguer de ça pour dire ben, on va revenir à un divorce catholique autorisé. Parce que franchement, il y a une chose très importante, je crois que c'est Jacques et Raël Samaritain qui ont réfléchi là-dessus, c'est que la loi naturelle, dans ses grandes lignes, elle est claire, mais les conséquences ne sont pas toujours évidentes. Et donc, il faut du temps pour que les sages arrivent à l'élaborer, etc. Et il faut que les gens évoluent. C'est un traditionnaliste qui dit ça, non. Évoluent dans le bon sens. Et il faut des siècles. Moi, quand je parle avec des amis missionnaires en Afrique, disent, un homme de 40 ans qui communie dans ma paroisse, me disait l'un d'eux, c'est rare, parce qu'il est polygame et il sait qu'il ne peut pas communier, mais il est catholique, il est croyant. Il faut du temps pour que les choses rentrent. Et là, il a fallu très longtemps pour dépasser les mœurs sémites de l'époque, qui était qu'on exécutait les prisonniers. Ça nous paraît monstrueux, mais le droit de la guerre a mis du temps à s'élaborer, on n'exécute pas un prisonnier. C'est une détermination légitime du droit naturel, peut-être même une conséquence. Bon, mais il faut du temps pour arriver à ça, et c'est pas du tout facile. Il y a une hypocrisie occidentale qui plaque sur des civilisations d'il y a 3000 ans, du Moyen-Orient, où ça continue de se passer un peu comme ça, bon, des schémas de bonnes sœurs et d'enfants de Marie, comme si ces gens-là avaient eu des catéchismes et des cours de persévérance. Et non, c'est même David, on voit les mœurs de David. Et donc, c'est incroyable que Dieu ait eu la condescendance de se glisser là-dedans pour en faire sortir le Christ. Mais le Christ n'est pas venu en disant « je condamne tout ce qu'ont fait les conquérants de la Terre Sainte ». S'il appliquait le schéma progressiste actuel, c'est ce qu'il aurait fait. Quoi.
Mais en revanche, on voit par exemple le parcours d'un cardinal Sarah qui part d'une culture animiste et qui arrive numéro 3. Donc il y a quand même des grâces spéciales, hein. Il y a des conversions.
Ouais. Tout à fait. Mais ce qui est très touchant dans les témoignages du cardinal Sarah, c'est sa piété filiale vis-à-vis des missionnaires. Ouais. Ça, c'est extrêmement émouvant, qui avait une pédagogie de prière et d'enseignement qui est à peu près celle qu'appliquent la plupart des communautés, Ecclesiadei ou même Fraternité Saint-Pédis aujourd'hui. Donc c'est extrêmement touchant de voir ça, cette reconnaissance.
Il y a une rapidité là dans l'assimilation. C'est époustouflant.
Donc ne pas abuser de ce passage temporel, circonscrit et caduc de la violence dans l'Ancien Testament. Et puis, alors là, on en va en parler juste un mot, ne pas transformer les conseils en commandements. Oui. Notre Seigneur, dans l'Évangile, a donné des conseils. Pas simplement pour voter chasteté obéissance. Hein. Il en a donné des dizaines, surtout dans le chapitre 5 de saint Matthieu, mais ailleurs aussi. Eh bien, voilà, les conseils, c'est précisément intégrer avec la grâce du Saint-Esprit la prudence surnaturelle en fonction des circonstances et de mon intelligence.
Tendre la joue gauche, c'est un conseil, c'est pas un commandement.
Voilà, c'est typique, ce conseil, saint Thomas y revient, c'est typique. Moi, je crois qu'il y a une phrase très importante de notre Seigneur, c'est « êtes-vous donc sans intelligence ?» Parce que le catholicisme, c'est une intelligence, c'est pas seulement des textes. Et c'est incompréhensible, le catholicisme est incompréhensible sans la tradition, les pères de l'Église et le magistère. Or, nous dit saint Thomas, nous devons lire l'Évangile comme l'ont lu les pères, et comme l'a interprété le Christ lui-même. Le Christ nous dit, tu tends la joue gauche, on tape sur la joue droite. Quand il est devant l'autorité suprême de son pays, on le frappe. Qu'est-ce qu'il fait? Il tend pas l'autre joue. Il demande raison.
Pourquoi me frappes-tu?
Si j'ai mal parlé, rends raison de ce que j'ai dit de mal. Si j'ai bien, pourquoi me frappes-tu? C'est parce que, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle le mode compositif. Il y a tout un ensemble de considérations. Si en sortant de cette émission, je suis agressé, un gars qui me dit que Allah est grand et que donc il va m'égorger, bon, je lui dirais, béni sois-tu, et puis à bientôt, au jugement dernier, peut-être. Mais moi, c'est pas très grave, enfin, je veux dire. Par contre, si c'est Rémi ou...
Christian,
eh ben, ils vont se défendre, surtout s'ils ont fait du karaté ou je sais pas quoi, et parce qu'ils ont des enfants. Et c'est, voilà, c'est...
Alors, le père qui a été assassiné, on a lu les témoignages, a donné des coups de pied avant d'être égorgé à Saint-Étienne du Rouvray, c'est ça?
Le père Mélin.
Oui. Il a donné des coups de pied à son agresseur en lui disant Satan, Satan.
Voilà. Donc en fait, je pense que moi, c'est, je vais vous dire, dans ma conversion, puisque quand même j'ai retrouvé le catholicisme à titre de converti, ce qui m'a frappé, c'est la grandeur du catholicisme, parce qu'il colle à tous les détails, et la vie est complexe. J'ai fait de la physique nucléaire, de l'astrophysique, le réel est complexe, et le réel humain est extrêmement complexe. Et quand vous lisez les conseils, eh bien, c'est, notre Seigneur aussi a dit, va vendre tout ce que tu as. Est-ce que vous allez, tout le monde va faire ça? Ben, c'est, tout s'arrête. Donc je crois qu'il faut les lire de façon profonde, avec l'impératif suprême de la charité. Le Christ a exercé la charité vis-à-vis de celui qui l'a frappé, vis-à-vis du grand prêtre et vis-à-vis de nous, parce qu'il témoignait qu'il n'admettait pas qu'on l'empêche de dire qu'il était le Fils de Dieu. Voilà. Et donc aujourd'hui, pour appliquer ces principes, certainement il faut les appliquer, mais il faut les appliquer dans la liberté des enfants de Dieu.
Voilà. Donc avec intelligence.
Avec intelligence, c'est...
Très bien, bah on va faire une nouvelle pause musicale avant d'aborder la troisième partie.
Vous êtes sur Lumière de l'Espérance, dans le libre journal de l'Espérance, où Rémy Fontaine reçoit le père Louis-Marie de Blinière de la fraternité Saint-Vincent-Ferrier. Une petite annonce avant d'entamer notre troisième partie d'émission. Véronique Lévy présentera son nouveau livre « Adoration » au Centre Saint-Paul, 12 rue Saint-Joseph, 75002 Paris. Le mardi 31 janvier, donc dans deux jours, à 20h30. Voilà, un témoignage donc d'une auditrice qui dit « Très belle émission, vive la fessée, vive l'armée, et j'ajouterai en avant la Légion.
» Et par Saint-Michel, vive les parrains. Nous venons d'écouter l'Alma Redemptoris Mater, donc l'ancienne mariale du temps liturgique. Nous sommes donc avec le père de Blinière pour parler de ce vaste thème, vraie et fausse miséricorde. Et dans ce thème, je voudrais qu'on aborde pour terminer un débat qui agitait pas mal le petit milieu catholique, la cathosphère comme on dit aujourd'hui, et qui est le problème identitaire. Et le problème de l'immigration, c'est le fameux débat entre deux livres, entre Laurent d'Andrieux qui a écrit « Église et immigration, le grand malaise », où il met en cause un peu la posture du Vatican aujourd'hui. Et en revanche, un autre auteur, Erwan Le Moerdec, a écrit « Identitaire, le mauvais génie du christianisme », où il reproche l'alliance des catholiques avec des gens trop attachés, selon lui, à l'aspect identitaire. Mon père, dans l'optique de notre thème, qu'est-ce qu'on peut dire justement sur cette tension justement entre l'universalisme chrétien et l'identité nationale? Est-ce qu'il y a concordance, opposition? Comment on joint les deux bouches?
Alors, on va prendre ici aussi un peu de recul, parce que pour ce qui est du détail événementiel, ben, vous avez beaucoup de bons auteurs. J'ai lu avec un grand plaisir La cause du peuple de Patrick Buisson et la moitié déjà du livre de Laurent,
d'Andrieux,
de Valeurs Actuelles. Donc, on va essayer de voir le point de vue philosophique et le point de vue théologique. Quand j'ai entendu parler de ce débat, qui est ancien relativement, je me suis dit, mais même logiquement, accuser quelqu'un d'être identitaire, c'est l'accuser d'exister. Parce que métaphysiquement, si vous voulez, voilà, les êtres ont un certain nombre de... Il y a un rayonnement de l'être et qui se traduit par ce qu'on appelle les transcendentaux. Et un des premiers, c'est l'unité. Et voilà, et l'identité, quelque chose est ce qu'il est et n'est pas autre chose. Donc c'est un peu drôle de dire ça. Mais je pense que c'est même, au point de vue moral, non seulement c'est drôle, mais c'est immoral. Parce que la tendance première de la loi naturelle, c'est de persévérer dans son être. Et donc on reproche aux gens de vouloir persévérer dans leur être en les accusant d'être identitaires. Et je crois qu'en arrière-fond, je me suis dit, au fond, parce que j'ai traversé donc des époques où c'était la domination soit existentialiste, soit marxiste en philosophie, après structuraliste, etc. Mais j'étais frappé du fait qu'il y avait une perte de vue que pour atteindre l'universel, ontologiquement déjà, mais en matière de culture c'est pareil, du fait que l'homme est corporel, qu'il est social, qu'il est progressif, il faut avoir une identité affirmée. Et je suis frappé, parce que je suis né dans cette civilisation, comme beaucoup de vous qui m'écoutez, pas tous, puisqu'on a des amis convertis, des berbères, qui sont nés dans un autre contexte, mais eux-mêmes ne me contrediraient pas, que la civilisation qui a atteint l'universel, à savoir l'Europe, enfin en simplifiant, a été la plus solidement enracinée dans une identité très remarquable, juive, avec l'ouverture extraordinaire à la dimension religieuse et, je dirais, poétique des sémites. Grec, avec qui on l'ouverture au logos, à la pensée. Romaine, n'en déplaise à Simone Veil. Enfin, quand je parle de Simone Veil, c'est le philosophe, bien sûr, qui détestait les Romains. Mais avec le droit, la notion qui est au fond... Moi, je connaissais peu le droit, mais j'ai découvert avec...
D'ailleurs, il y a un livre qui a été écrit par un progressiste converti, notamment, c'est Jean Hypopère, Les Trois Capitales.
Voilà, Les Trois Capitales, tout à fait. Donc, romaine avec le sens du droit, et chrétienne, évidemment. Donc, le débat sur identité ou universalisme, à mon avis, concerne la vraie notion de liberté et donc celle de nature. Donc je crois qu'il faut relire les textes de Benoît XVI. Il y a toute une série de textes remarquables, en particulier le Bundestag, en septembre 2011, où il insistait sur le fait que le droit n'est pas purement positif, mais qu'il s'enracine dans la nature de l'homme. Et il faut donc rouvrir le débat, peut-on atteindre par la raison la nature de l'homme? Et à partir de là, la vraie liberté, qui est justement celle d'épanouir sa nature. Et en réfléchissant à ce qu'est la nature de l'homme, tout de suite, on s'aperçoit qu'elle est politique. L'homme est un animal politique, un homme qui vit en famille, un homme qui vit dans une économie plus ou moins développée, et qui vit dans une cité, avec ses différents systèmes plus ou moins complexes. Mais il y a ces trois dimensions fondamentales. Donc, l'idée que l'universalisme supposerait de gommer les identités, du moins d'une façon radicale, est une idée fausse, parce que les médiations, la famille, le juste domaine de l'économie qui est la cité, elles ne sont pas aliénantes de soi. Bien sûr, elles m'enracinent quelque part, mais c'est comme un arbre, plus il va être haut, plus il faut qu'il plonge profondément. Si j'ai aucune racine, mes feuilles ne peuvent pas s'épanouir dans l'atmosphère et envoyer le pollen plus loin. Donc de soi, les médiations ne sont pas aliénantes, sauf que les roses. C'est vrai que les gardes-clochers, ce n'est pas intéressant, bon. D'accord. La destruction des distinctions n'est pas de soi épanouissante. Donc je pense que les officiers ne me contrediront pas. Quand on a voulu mettre le même béret à tout le monde, ça n'a pas été possible, ça a été la révolution. De même, si vous voulez faire les dominicains et les jésuites dans le même couvent, il va y avoir des soucis. Déjà, c'est un miracle qu'ils soient tous les deux dans l'église.
Même les dominicains et les franciscains, je dirais.
Même les dominicains et franciscains, et c'est bien, vous voyez, c'est bien. La suppression des droits et coutumes propres, le droit propre est très important, et depuis le code Napoléon... On a trop oublié ça, au bénéfice de l'universel. Alors, je pense que pour rejoindre la question d'identité nationale, qui n'est pas la seule identité, je dirais nationale, culturelle et linguistique, enfin, il y a tout un ensemble, même philosophique en un sens, il faut vraiment voir le point de vue fondamental. Il y a une nature politique de l'homme. Et cette nature ne peut sortir les conséquences du droit naturel que par la civilisation. Et la civilisation, ça prend du temps. Il faut beaucoup plus, moins de temps pour... faire sauter un groupe humain, il suffit d'une génération, comme on le voit malheureusement en partie, pas totalement chez nous, mais c'est ce qui risque d'arriver, si on n'y prenait pas garde, que de le construire. Il faut des siècles. Quand actuellement au réfectoire, on lit l'histoire de l'Église, on en est sur Boniface VIII et tout, on s'aperçoit le temps que l'Église a mis pour arriver à avoir un juste rapport avec le politique. Bon. Et donc, il y a une importance de l'histoire. Ça, c'est tout à fait capital pour arriver à tirer, selon l'esprit de chaque groupe, ses conclusions du droit naturel, qui seront toutes des déterminations du droit naturel, mais qui seront variées en fonction de la physionomie de chaque groupe.
Mais il y a une différence, mon père, entre identité et identitaire. Je vous dis ça parce que j'ai bien connu quelqu'un qui me disait qu'il était chrétien identitaire. Donc, moi, je connaissais pas trop l'association des chrétiens me suffisait. Donc, chrétien identitaire. Et quand j'ai approfondi la question, il m'a dit, en fait, je suis athée. Alors, j'ai dit, mais comment peut-on être chrétien et athée? Il me dit, mais en tant qu'identitaire, j'appartiens à un groupe humain qui sont les chrétiens et dont je revendique de faire partie, mais pour autant, je n'ai pas la foi.
Voilà, alors je ne peux pas le condamner parce que ça a été mon cas. On n'employait pas le mot identitaire dans les années 65-70, mais je me considérais comme héritier de la culture catholique. Je la défendais contre les gauchistes. Enfin, à l'époque, les services d'ordre étaient moins nombreux que ceux de la Manif pour tous. Hein. Le 13 mai 68, on était 2000, nous. Donc vous êtes heureux d'être 1 million quand vous manifestez. Donc si vous voulez, je l'étais, mais sans hypocrisie. C'est-à-dire que j'imposais pas mon agnosticisme à mes copains, et au contraire, c'est plutôt eux qui m'ont influencé. Donc ça, c'est un débat un petit peu... Il y a eu, un fil intéressant de Laurent Dandrieux sur l'ETIA.
Le débat est ancien, parce qu'en fait, c'est le débat contre l'action française.
Voilà, c'est ça,
qui cette parole du cardinal Andrieux, qui est à l'origine, justement, de la condamnation de l'action française, qui dit « catholique par calcul et non par conviction ». Ils se servent, donc les maurassiens, non-croyants, les chrétiens identitaires, ils se servent de l'Église, ou du moins ils espèrent s'en servir, mais ils ne la servent pas.
Bon, hein? Alors, moi je vais parler d'autant plus librement que Maurras m'agace un peu sur beaucoup de domaines. J'espère que je vous choque un peu, là, mes chers auditeurs. Ça ne veut pas dire que je ne reconnais pas sa grandeur dans l'analyse politique, mais son positivisme conscient a eu des conséquences, je pense...
C'est des dérives naturalistes qu'on peut pas nier.
Un certain anti-intellectualisme que j'ai connu et qui tend à disparaître dans les mythes. Je suis frappé qu'en 40 ans, l'importance de la vraie doctrine et des approfondissements des connexions doctrinales et de la métaphysique a beaucoup progressé dans notre famille de pensée. Mais donc, je le dis, mais alors je trouve vraiment étonnant, vous voyez. C'est un espèce d'angélisme que dénonce très bien Laurent Dandrieux, un espèce de purisme. On n'arriverait à la foi que par des raisons éthérées, etc. Non, ça ne correspond pas à la vérité des choses. Hein. Je vais dire un mot là-dessus un peu en conclusion. Mais je pense que c'est très inhumain, vous voyez, de réclamer qu'on n'arrive pas à la foi à la suite d'un moment de cours. On arrive à la foi parce qu'on quelqu'un qui n'a pas la foi épouse une femme qui l'a. Saint Paul dit, allez-y. Soyez prudents, mais on est sanctifié par la foi de la femme. Moi, je suis arrivé à la foi au troisième whisky avec des glaçons, parce que mon ami du groupe étudiant dont je faisais partie me disait « La retraite de Saint-Ignace où tu dois aller n'est pas facultative. » Alors, comme le whisky était bon, puis que j'en avais assez d'être agnostique, mais il ne m'aurait pas bousculé, peut-être je serais encore traîné je ne sais où. Quoi.
Mais puisque vous évoquez Charles Maurras, quand il était en prison, il a lu l'histoire d'une vie de Sainte Thérèse. Et alors, il a eu cette phrase, je ne sais pas si vous connaissez cette anecdote. Il a eu cette phrase « Toute ma vie, j'ai cherché la vérité. En lisant Sainte Thérèse, j'ai découvert l'amour. »
Voilà, c'est quelque chose de très beau. Oh. Il y aura beaucoup de choses à dire sur le drame. Il y a eu des textes écrits sur l'agnosticisme de Maurras sous la lumière de la Providence. C'est Louis Damny qui avait écrit ça. Mais donc, revenons au point de vue un peu philosophique qui est important, comme toujours. Hein. En fait, vous avez Platon, vous avez Aristote. Hein. Alors, Platon est un génie magnifique et téméraire, comme dit Jacques Maritain. Et lui, il fait la République. Hein. La République, c'est en fait c'est le dialogue sur la justice. Hein. Et c'est en fait quelque chose qui mime et qui est l'idée du bien, les idées éternelles, surtout l'idée du bien, et qui est destinée à permettre à certains d'y arriver. Mais en fait, c'est une sorte de laboratoire métaphysique, et il faut que les hommes rentrent là-dedans de force éventuellement.
Le roi philosophe. Hein.
Avec voilà, les archontes philosophes, etc. Bon, il y a des choses magnifiques hein, dans la République. Puis alors, Platon, c'est pas que la République, enfin, c'est vraiment un génie absolu. Quoi. Mais ceci dit, je pense politiquement, il est très faux. Et je crois qu'il est un peu indirectement à la racine des totalitarismes. Parce que quand vous voyez ce que fait Hitler ou bien Staline ou Mao ou tous ces gars-là, c'est vraiment de faire, et Lénine, de faire rentrer les gens dans l'idée du juste. Vous voyez que Lénine était embêté parce que les gens voulaient simplement une réforme, mais lui voulait une révolution. Bon, c'est ce qu'a fait la terreur française aussi. Donc je pense que c'est des gens dangereux parce qu'en fait, la politique, c'est pas du tout ça. La politique, c'est inductif.
Les idées séparées.
C'est pas les idées séparées, justement, parce que pour Aristote, on atteint l'universel que dans le concret singulier. Donc lui, au lieu de réfléchir sur les idées Il avait étudié ça pendant 20 ans avec Platon. Il a étudié 158 constitutions des cités athéniennes, enfin des cités grecques. Hein. Et à partir de là, il a réfléchi avec une vue finaliste, quel est le but de la cité, le bien total de l'homme. Et c'est ça qui est la clé.
Ça fait penser justement à cette confusion entre universalisme et identité. C'est, est-ce que les universalistes justement ne plaquent pas la société surnaturelle qu'est le royaume de Dieu sur le royaume temporel? Et ça fait penser à la fameuse phrase de saint Paul, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni homme libre, ni homme, ni femme dans sa fameuse épître aux Galates. Et beaucoup de gens voudraient appliquer ce royaume des dieux sur Terre.
Oui, c'est très touchant, Rémi, parce que vous citez quelque chose que je m'apprêtais à dire. Ah, bon. C'est magnifique. Parce que c'est vrai que la démarche aristotélicienne est un peu modeste. Donc on dit, voilà, quelle est la constitution qui va mieux convenir à ce groupe, qui est à tel endroit, qui est à tel... Voilà. Et pourquoi? Parce que ce qui compte, c'est le bien. C'est vraiment une science morale, mais le mot moral est un peu pollué aujourd'hui, disons éthique. C'est une science de l'agir humain, avec une partie artistique, si vous voulez. Mais c'est essentiellement une science de l'agir humain. Mais quel est l'agir moral pour le bien et non pas pour l'idée du bien? Et donc, il dit une chose, l'excellence est diverse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, pour chaque cité, il y a le meilleur régime, mais il est différent de ce qui sera pour une autre cité. Bon, c'est-à-dire que Platon, il vous plaque quelque chose. Et je crois que si on en vient, maintenant, en continuant un peu dans le domaine philosophique, la crise actuelle du politique en Occident... Elle est, à mon avis, en partie l'effet des théologies, des philosophies terroristes, j'allais dire, nazis, enfin marxistes, etc., et maintenant d'autres, qui veulent plaquer quelque chose sur les hommes et rendre les gens heureux de force, quoi, sans voir la nature de l'homme, sans voir la famille et sans voir la juste place de l'économique. Donc je pense que ce sont des dangers publics et que dans la postmodernité, alors je suis frappé du caractère, je reviens du Québec et du Moyen-Orient, je suis frappé du caractère surréaliste, sous l'exemple comment on appelle ça, la laïcité française ou l'athéisme français. C'est surréaliste, enfin, par rapport à l'homme. Et c'est faux, parce que dans le métro, moi, je parle sans aucun problème avec des bouddhistes ou les musulmans viennent m'embrasser sur l'épaule parce que je suis un ami. Qu'est-ce que c'est que cette laïcité qui est en dehors du réel, vous voyez? Donc je pense qu'on ne doit pas admettre ça. Et ce que je remarque, c'est que dans sa postmodernité, il y a une nuance en plus. On arrive à l'époque de la rage. Maintenant, je suis frappé des étiquettes qu'on met sur les gens sans aucun dialogue. Il suffit de mettre une étiquette. Moi, quand j'étais petit, j'étais fasciste et colonialiste. Aujourd'hui, vous êtes identitaire ou je ne sais quoi. Mais je dis, c'est très mal poli et on ne doit pas accepter ça. Alors, en fait, ces militants de l'universalité sont en pleine contradiction parce qu'en même temps, c'est les mêmes qui militent pour la différence, homosexuels, gays, ceci, cela, musulmans, bouddhistes, colonais. Toutes les différences, sauf celle, la nôtre, quoi. Ils sont dans une contradiction qui, à mon avis, est insoutenable.
Si on pouvait revenir un instant en arrière, vous parliez de Platon et vous disiez que c'était un génie absolu et qui, d'une certaine façon, il était à l'origine des totalitarismes. Mais ouais. Ne faudrait-il pas citer saint Thomas More qui a écrit Utopia et qui lui-même a essayé à fabriquer une société complètement calquée où chacun devait être dans son alvéole, obéir à
fait. Thomas More, c'est très émouvant parce que c'est vraiment l'Église catholique, c'est fantastique. Hein. C'est que intellectuellement, c'était la Renaissance platonicienne. Justement, je sors on a fait une journée pour mon professeur mon maître Pierre Magnard, qui est un homme remarquable. On a fait une journée d'hommage pour ses 90 ans. Il y avait donc toute un petit groupe de néo-platoniciens et c'est très fascinant. Oui. Alors, je pense qu'il y a une exagération de l'importance de Platon. Enfin, une exagération. Ça, il est dans saint Thomas aussi, mais composé avec Aristote chez Denis l'Areopagite. Et en tout cas, dès qu'on veut appliquer Platon dans la réalité quotidienne, on arrive à des gros problèmes. Et je pense que Thomas More, disons, je ne dis pas que sa mort rachète sa vie est magnifique aussi, mais disons, intellectuellement, là, ça n'allait pas.
Mais est-ce qu'il s'est repris sur l'utopie?
Là, je ne le connais pas assez. Au congrès de Lausanne, on avait projection du film Un homme pour l'éternité.
Il a été canonisé plus pour sa vie et ses vertus héroïques que pour son œuvre.
Oui, c'est sûr qu'il a été au martyr, hein, donc pour sa foi.
Donc voilà, ça c'est le point de vue philosophique. Je pense que ne nous laissons pas tromper. Je pense qu'en militant contre la vraie identité, l'identitarisme, c'est sûr qu'il y a des excès. Bon, mais on ne fait que les nourrir en niant le problème. Ne nous laissons pas tromper. Et l'identité n'est pas opposée à l'universel, elle est la condition de l'universel, philosophiquement, à mon avis. Et donc, surtout nous qui sommes Européens, nous sommes appelés à porter l'universel en nous enracinant. Mais moi, je remarque qu'en voyageant, si vous voulez, qu'avec notre identité, on est ouvert. Quoi. C'est une identité qui nous ouvre par nature, si vous voulez, au dialogue avec l'autre, mais au dialogue en vérité. Alors maintenant, arrivons au point de vue, la question très juste qui a été posée.
Oui. La question, donc, c'était que...
C'était savoir si on ne plaquait pas le domaine surnaturel. Vous voyez, je remarque, si vous lisez l'Évangile, on est frappé par l'insertion du Christ dans le concept culturel. Il aime sa patrie, il pleure sur sa patrie, il porte l'habit des rabbis, il fait tous les gestes, il fait tout, sauf les rubriques excessives des pharisiens. Il est prodigieux, si vous voulez, d'amour de sa patrie. Et quand il est face à un militaire, face à un magistrat, voilà, il lui rend... Il se propose d'aller chez le centurion, alors qu'il y a une souillure légale si on rentre chez un centurion romain. Donc je pense qu'il a assumé son identité. Mais pourquoi il l'a fait? Parce qu'il était au terme, si vous voulez, c'est frappant. Dieu, quand il révèle son plan, c'est tellement bizarre, l'ordre surnaturel, qu'il coince tout sur un homme. Abraham, Moïse, etc., David, le Christ. Et une fois que c'est arrivé là, ça explose. Pourquoi? Parce que le Christ, c'est le singulier absolu et l'universel absolu, c'est l'homme-Dieu. Et donc, une fois arrivé à ça, c'est, mais il a dit, je suis envoyé aux brebis d'Israël, il a accepté et parfait l'identité juive, il n'a pas du tout nié. Et à partir de là, avec saint Paul, on a pu, en effet, donner son message à tous. Et donc, cette fameuse phrase est une phrase qui est mal interprétée, hein, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni homme libre, ni homme, ni femme. C'est une phrase qui vise un rituel de prière juif, qui disait, je te rends grâce au Dieu, que je ne suis pas un grec, que je ne suis pas un esclave, que je ne suis pas une femme.
Ah oui.
Et saint Paul a dit non, dans le royaume, il y a une égalité fondamentale des êtres. Mais c'est, alors je suis étonné de cette erreur. Comment peut-on penser, ou alors le royaume est faux, ou il respecte l'ordre naturel, tout en le dépassant, en le purifiant. Parce qu'au fait, voilà. Donc comment peut-on penser que la révélation chrétienne gomme l'ordre naturel.
Ah, comme quand le Christ dit on ne prendra pas mari ou femme dans le royaume des cieux, mais parce que vous adorez comme les anges.
On sera sorti de l'époque politique.
Ouais, ouais.
Tant que l'humanité est en marche intellectuellement, socialement et politiquement, on a besoin d'une famille, on a besoin et on a besoin, me semble-t-il, je ne suis pas politologue, hein, mais la cité. Pour l'instant, c'est ce qu'on a trouvé de mieux, la cité ou la nation, appelez ça comme vous voulez, c'est ce qu'on a trouvé de mieux pour faire subsister le bien commun politique.
On ne va pas se servir de cette phrase du Christ pour nier la famille ou prenez la théorie du genre, l'idéologie du genre.
Tout à fait. Donc je crois que, pour moi, enfin, je suis tout à fait convaincu de ce que dit Peggy dans son magnifique Ève, hein, réédité en anthologie par le Barou. Car le surnaturel est lui-même charnel, et l'arbre de la grâce est raciné profond, et long, et plonge dans le sol, et cherche jusqu'au fond, et l'arbre de la grâce est lui-même éternel. Donc Peggy a beaucoup insisté là-dessus, mais je crois qu'il a raison. Mais alors, il faut peut-être faire remarquer que l'identité, c'est pas le chauvinisme. C'est-à-dire que c'est vrai que les querelles de clochers, l'obnubilation sur son groupe, le refus de rentrer en contact. L'identité, c'est aussi l'université, qu'on a besoin d'être plusieurs pour réfléchir, on a besoin de se mettre en contact. Et au fond, je crois que...
Et Peggy a beaucoup dénoncé, justement, la tentation dévote par rapport à la tentation identitaire.
Tout à fait.
Les dévots, justement, qui oublient le charnel.
Alors moi, je pense que dans la tentation moderne dont Andrieux dit, elle est un peu cathare, je crois qu'elle est aussi martionnite, c'est-à-dire qu'une évolution de l'Ancien Testament, de la loi naturelle, hein, c'est quelqu'un qui disait, même la partie loi naturelle, on s'en fiche, et je crois que c'est un drame et qui joue contre l'homme, cette affaire-là.
Alors, on arrive à la fin de cette émission, qui est passée très, très vite, en fait, et on va s'identifier une dernière fois en faisant la synthèse des questions arrivées, et puis on va conclure avec vous, mon père.
J'avais le mot à dire sur Maurice Laetitia.
Oui.
Alors, vous écoutez le Libre Journal de l'Espérance. Aujourd'hui, Rémy Fontaine reçoit le père Louis-Marie de Blinière de la fraternité Saint-Vincent-Ferrier. Alors, écoutez, je vais commencer par les lectures des différents mots. Donc, une auditrice enthousiasmée par ce que vous avez dit, Monsieur Fontaine, ajoute « Vive la Légion, honneur et fidélité », qui est, comme chacun le sait, la devise de la Légion étrangère. J'ai ici deux questions avant de venir sur la dernière, mon père, d'un auditeur masculin qui dit « L'invité dit, donc il s'agit de vous, Platon était un génie, or, si je me suis bien renseigné, il a été formé surtout en Égypte. Pourquoi l'horizon s'arrête-t-il si souvent à Radio Courtoisie ?»
Alors, je suis astronome de formation, mais ça serait trop long de répondre. Hein. Je crois que c'est vraiment, en effet, il a reçu beaucoup des Égyptiens aussi.
Et donc, nous avons fait le tour des questions. C'est toujours très agréable, même si les questions ne sont pas toujours bienveillantes, mais ce n'était pas le cas aujourd'hui. Il n'y avait pas de questions malveillantes, mais c'est déjà parfois arrivé. En tout cas, il y avait une question qui avait été posée tout à l'heure. Puisqu'il ne reste que quelques minutes, c'était... Pouvez-vous dire quelques mots des Doubias ? Qu'est-ce qui se passe au Vatican ?
Alors, je ne vais pas vous dire ce qui se passe au Vatican, mais je vais vous dire ce que j'ai fait, moi, pour les Doubias. Je suis théologien, enfin, disons, je suis philosophe, etc., et aussi théologien. Et donc, j'ai fait un article dans notre revue qui a été... j'ai envoyé à des prélats. Plusieurs prélats m'ont félicité, dont les quatre qui ont fait la démarche. Hein, voilà. On a fait deux articles dans notre revue sur ce sujet, qui était notre travail. Et ensuite, il y a eu un groupe de théologiens anglais, italiens, français, américains, qui se sont dit, adressons des questions aux cardinaux pour les demander d'agir auprès du Saint-Père. On était 45 et trois d'entre nous qui ont un doctorat chez moi, on signait ce texte. On aurait pu être 100 si on avait eu plus de temps. Hein. Très respectueux, on a signé parce que c'est théologiquement très précis et sans vraiment aucune marque d'irrespect. Et nous avons été heureux de voir que 4, en fait 6, parce que 2 n'ont pas donné leur nom, cardinaux, ont repris l'idée et ont présenté très respectueusement des Doubias qui sont magnifiques, rédigés par le cardinal Caffarra au Saint-Père. Et ils attendent une réponse. Alors, vu le caractère délicat de cette affaire et un peu passionné aussi, je préfère pour l'instant ne pas revenir sur le sujet et peut-être dans 3 mois, il y aura du nouveau sur le thème.
Oui, alors les auditeurs qui seraient intéressés par ce sujet et ce qu'a écrit le père de Blinière, ils peuvent se procurer donc la revue Sedes Sapiensae qui traite le sujet sur 2 numéros du reste, hein, dans la revue 136, donc réflexion sur Amoris Laetitia, très 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 intéressante, et puis dans le numéro 137 il y a un article très synthétique, hein, signé Vincentius, l'imputabilité du péché mortel dans l'exhortation apostolique à Amoris Laetitia. Alors, effectivement, on vit actuellement des moments assez, assez complexes, de désorientation, de confusion, même d'une certaine manière. Et effectivement, on aperçoit quand même des réactions pastorales qui sont quand même très, très opposées et très divisées. Et c'est quand même problématique. Non. Et les 4 cardinaux qui ont signé les Doubias, c'est pas n'importe qui. Hein. Le cardinal Caffarra, c'est quand même un fils spirituel de Saint Jean-Paul II.
Oui. Et je tiens à préciser que le premier des articles se trouve en ligne dans la rubrique formation sur notre site, chemereux.org.
Eh bien, nous arrivons au terme de cette émission. Nous recevions aujourd'hui le père Louis-Marie de Blinière, fondateur de la fraternité Saint-Vincent-Ferrier. Nous avons parlé de ce thème très vaste et très dense, vrai et fausse miséricorde. Merci beaucoup, mon père.
Merci à vous.
Et pour son règne, Dieu nous garde.
Vous venez d'entendre Lumière de l'Espérance, dirigé par Rémi Fontaine, document d'archives de Radio Courtoisie du 29 janvier 2017, diffusé dimanche 12 juillet 2026 de 10h30 à midi. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle, associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal commandé, le CD-ROM, pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie 61, boulevard Murat, 75 016, Paris.